moi qui le tire.
Alors, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Sud, nous voilà réunis. Enfin, réunis si on veut. Vous connaissez les conditions de confinement actuelles. Et donc, nous faisons une émission en partie en Zoom et en partie en montage post-production. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, nous sommes là avec Lou.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Oui, un peu compliqué parce que, voilà.
Voilà, Isabelle oui, est là aussi. Bon,
mais oui, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, et alors Coralie est là aussi, mais de manière virtuelle. Et par un mystérieux mystère, elle ne peut pas vous dire bonjour pour le moment, mais elle est de tout cœur avec nous et avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, tant que nous sommes à parler de Coralie, eh bien, elle va nous présenter un jeu. Vous savez que la bibliothèque de Jamoigne est connue pour sa ludothèque, une ludothèque très importante. Et Coralie va nous présenter un jeu que voici, que voilà.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans les jeux société, j'avais envie de vous présenter le prix Joker. Alors le prix Joker, c'est quoi? Tout d'abord, ce sont 6 catégories différentes dans lesquelles on retrouve à chaque fois 3 jeux. Et bien entendu, on vous demande de jouer à ces jeux et de voter pour votre jeu préféré. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques lauréats. Tout d'abord, dans la catégorie duo, je vous présente Pirates Under Fire, les pirates sous le feu. Alors c'est un petit jeu assez sympathique qui se compose principalement de tuiles de carton. Le but du jeu, c'est de conquérir les océans puisque vous êtes un pirate. Pour ce faire, et vu qu'il n'y a que 2 joueurs dans la catégorie duo, vous possédez environ une 60aine de petites tuiles qui sont bleu foncé et bleu clair, ainsi que des petits jetons à placer sur le plateau. Et enfin, 3 plateaux bleu clair et 3 plateaux bleu foncé que vous devrez disposer afin de créer votre aire de jeu. Alors, ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est que comme vous pouvez disposer les 3 plateaux un peu comme vous le souhaitez, l'aire de jeu n'est pas très souvent la même. Voilà, alors au niveau des tuiles, donc on a les petites tuiles bleu clair avec un joli petit bateau brun foncé. Et sur chaque tuile, le côté pile représente le bateau quand il est encore en bon état et le côté face, le bateau quand il est coulé. Pour le reste, ça fonctionne un petit peu comme une bataille navale. Donc vous placez vos bateaux, vous placez vos pions et le but du jeu, c'est de couler l'ennemi. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, de très facile à prendre en main. Cependant, on conseille quand même aux joueurs d'avoir un minimum de 10 ans pour bien comprendre l'utilisation des différentes tuiles et pour avoir des facilités à compter les points. Voilà. Alors, comme je le disais, il fait partie de la catégorie duo, donc il ne se joue qu'à 2 et une partie peut durer une 30aine de minutes environ. Alors, si jamais vous avez envie de tester ce jeu, vous pouvez tout à fait le retrouver à la bibliothèque de Jamoigne. Vous pouvez le réserver en téléphonant à la bibliothèque au 061 25 98 25. Et vous pouvez également bénéficier du service de domicile livre et donc téléphoner à la bibliothèque en demandant qu'on vous apporte le jeu directement à la maison. Pas besoin de se déplacer. Et vu que c'est toujours plus sympathique de jouer ensemble, je vous propose une petite chanson de Jean-Jacques Goldman.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, d'un mur immense. Nous étions ensemble, ensemble, était-ce un lundi? Franchis-y, là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, reviens-moi. De tes voyages si loin, reviens-moi. Tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi. De tes voyages si loin, reviens-moi. Tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. De tes voyages si loin, reviens-moi. Tout s'ajoute à ma vie. Étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
nous l'avons franchi.
Eh bien voilà un jeu, ma foi, très intéressant. Et Lou s'apprête, elle est sur les starting blocks,
oui,
pour nous parler d'un vieux meuble.
D'un vieux meuble, oui, d'une commode plus exactement, avec des tiroirs de couleurs. En fait, la commode aux tiroirs de couleurs, c'est le titre d'un roman, d'un premier roman, d'une personne que vous connaissez sûrement comme chanteuse. En fait, il s'agit d'Olivia Ruiz. Alors, ce livre est paru en 2020 aux éditions Lattès et il m'a été vivement recommandé par Isabelle. N'est-ce pas, Isabelle ?
Mais tout à fait, effectivement. C'est un roman que j'ai vraiment apprécié. Et comme quoi, on peut passer des textes de chansons qui sont courts à des textes plus longs.
Ah
sous
oui,
la forme de roman.
Ah oui, 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 avec une très belle écriture. En fait, c'est l'histoire, probablement qu'elle s'est un peu inspirée de sa famille, mais ce n'est pas autobiographique, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit en héritage de sa grand-mère une commode. Et en fait, cette commode, elle l'a toujours connue dans la maison de sa grand-mère. Et c'est bizarre parce que ça m'a fait penser, moi j'ai un peu eu ça, c'était pas une commode avec des tiroirs de couleurs, mais c'était une commode avec deux tiroirs et deux grandes portes. Et ce meuble appartenait à ma grand-tante. Et quand elle est décédée, j'avais une vingtaine d'années, j'ai décidé que c'était mon meuble parce que toute petite, il y avait toujours des bonbons dans le meuble. Alors j'adorais ce meuble. Et alors c'est très étrange parce que dans le tiroir, j'ai retrouvé une série de lettres qui ont levé un bout du secret de la vie de ma grand-tante. Et c'est exactement de ça dont parle Olivia Ruiz dans son roman. Et la petite fille de Rita passe une nuit entière à ouvrir un à un les tiroirs de la commode. Et chaque tiroir recèle un secret et dévoile un aspect de la vie de Rita, donc la grand-mère, un aspect que la petite fille ne connaissait pas. Alors Olivia Ruiz, dans ce bouquin, nous fait vraiment cadeau d'une histoire familiale qui est très émouvante, parfois assez dure, même très très dure, mais elle est toujours pleine d'amour. En fait, donc la grand-mère a été obligée de quitter l'Espagne franquiste parce que ses propres parents étaient des républicains militants qui se savaient menacés de mort. Et donc Rita, la petite fille, est arrivée avec ses deux sœurs en France, où elle a été recueillie dans une pension par une Espagnole au grand cœur. Elle a d'abord dû s'intégrer dans la société et c'était pas facile, comme ça ne l'est pas, ce ne l'est toujours d'ailleurs pas tellement. Alors je vais vous lire un tout petit extrait où elle parle de l'école. Donc elle, petite Espagnole, ayant fui Franco. Comment t'expliquer ce que ça fait d'arriver dans une école dont tu ne parles pas la langue ? C'est comme être sourd, ou plutôt comme être sourd-muet. Enfin, j'imagine. La langue n'a pas été longtemps une barrière, je crois, même si en dehors de la classe, nous parlions exclusivement espagnol. La plupart des enfants français avaient reçu comme ordre de leurs parents de ne pas nous approcher. Les odeurs, les poux, la crasse, tout le toutim. Pourtant, je t'assure que nous avions une hygiène irréprochable et que nous n'avons jamais eu de poux. Les cheveux noirs comme de l'ébène et épais comme de la corde, les poux n'ont jamais aimé ça. C'est connu, ils ne s'y retrouvent pas. Alors, la petite Rita grandit et se retrouve à Toulouse et c'est là qu'elle va rencontrer son grand amour, Raphaël. Raphaël a lui aussi fui l'Espagne franquiste et c'est le coup de foudre. Alors, je ne résiste pas, je vais vous lire parce que Olivia Ruiz écrit vraiment magnifiquement le début d'un amour passionné entre sa grand-mère, Rita, et Raphaël. Donc ils sont dans les rues de Toulouse, elle vient d'arriver à la gare. Raphaël marche vite. Avec un sourire tendre, il s'est emparé de ma main pour que je tienne le rythme, sans que j'aie le temps de donner mon accord. J'aime ça aussi. Il est respectueux, mais entreprenant. Un bonhomme, quoi. Un vrai. Je crois défaillir chaque fois que je pense à sa peau contre la mienne. J'essaie de me concentrer sur autre chose, mais rien n'y fait. Un vent de fou a pris possession de la ville, ou alors c'est l'effet de ma main dans la sienne qui déchaîne les éléments. Le vent d'autant nous fait courber les chines et ralentit notre marche. Il essaie de défaire nos mains entrelacées, même si chacune d'elles lui résiste. À nouveau, regard tendre demandant mon aval sans attendre qu'il arrive. Quand ses doigts se défont des miens, j'ai l'impression qu'on m'arrache un membre, alors que nous marchons seulement depuis 20 minutes. Mais c'est son bras puissant qui prend le relais, s'étire et passe dans mon dos. Sa main s'agrippe à mon épaule et nos deux corps forment un bouclier contre Éole. Je me sens vivante, terriblement vivante, dans les bras d'un inconnu, seule dans une ville que je ne connais pas. Je n'ai pas peur. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, il fallait qu'elle ait lieu, j'en suis sûre. C'est si naturel, c'était écrit. Alors, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé ce roman, hein, je l'ai déjà dit, parce que je me suis vraiment sentie concernée par la quête d'identité de la petite fille de Rita, son besoin de comprendre et surtout de dire et de transmettre, de briser le silence, les tabous, avec délicatesse et pudeur, mais quand même avec un certain franc-parler aussi. Franchement, j'aurais vraiment voulu que la commode ait bien plus de tiroirs. Alors, puisqu'Olivia Ruiz est aussi une chanteuse, aujourd'hui, la chanson que j'ai choisie, c'est « Je traîne des pieds », une petite chanson d'Olivia Ruiz qui parle de son enfance. Alors, je vous conseille évidemment la lecture de ce livre que vous trouverez dans les bibliothèques de Jamoigne et de Florentville.
Mes genoux, écorché mon petit cœur tout mou. Bousille. du bœuf bourguignon. Toute la famille tête dans le guidon. Du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été. Joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon
traîner des pieds. Figurez-vous qu'il y a un petit chat qui est arrivé chez moi là, en traînant des pattes. Il traînait dans la rue et puis il avait vraiment l'intention de venir à la maison. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des livres sur les chats. Je me suis dit, en passant à la bibliothèque de Florentville, j'ai demandé, c'était, je ne sais plus qui était là ce jour-là, mais on m'a conseillé un livre qui s'appelle « Le comportement du chat ». Comprendre et agir, les conseils d'une vétérinaire comportementaliste. C'est le docteur Valérie Dramard et c'est publié chez Ulmer et donc très bientôt disponible à la bibliothèque de Florentville. Alors au début j'étais un peu déçu, disons, je m'attendais à traiter un livre qui explique le comportement du chat et c'est un dictionnaire en fait, c'est sous la base d'un dictionnaire, donc par ordre alphabétique, vous avez tout un tas de choses. Par exemple, à la lettre C, nous avons caresse et câlin. Les caresses et les câlins constituent des occasions de contact physique entre le chat et son maître, doux et agréable. Ce sont des gestes essentiels qui permettent d'échanger de l'affection avec son animal de compagnie. Alors là, je ferai une petite remarque, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'un chat puisse avoir un maître. C'est une question. Un chien peut-être bien, mais un chat, je n'y crois pas vraiment. Et donc, si on se pose des questions sur beaucoup de choses, par exemple la coprophagie, est-ce que vous savez ce que c'est la coprophagie ?
Non, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est.
Très rarement observée chez le chat, contrairement à ce que l'on constate chez le chien, la coprophagie est un comportement anormal qui consiste en l'ingestion de fèces, de matière fécale, de caca. Donc c'est très rare chez le chat. S'il fait ça, vous pouvez vous dire que c'est probablement un manque de minéraux ou de vitamines ou que le chat a vraiment un problème.
Ah oui, il y a des explications scientifiques à ce genre de comportement.
Tout à fait, bien vulgarisé. Alors vous avez le distributeur mobile de croquettes. Alors c'est le Pipolino, hein, attention, c'est quelque chose de breveté. C'est un distributeur mobile de croquettes. Donc si vous voulez, ça ressemble à une bouteille en plastique, on peut fabriquer ça soi-même. Et alors on fait des trous à peu près de la taille d'une croquette de chat. Et alors quand le chat fait rouler la bouteille, des croquettes sortent de la bouteille. C'est très
important. Il doit mériter sa nourriture.
Mais c'est surtout pour l'occuper.
Ah oui.
Parce que les chats peuvent s'ennuyer et ils peuvent faire de la dépression. Ce n'est pas très courant qu'ils font de la dépression. Et du coup, on leur donne des antidépresseurs.
Oh.
Ce n'est pas une blague, hein.
Et ça me fait penser à un sketch de Monty Python avec Confuse the Cat. un chat dépressif et puis les Monty Python qui font des tas d'acrobaties pour essayer de distraire le chat. C'est très drôle, si vous avez l'occasion de regarder.
C'est un sketch à voir. Le vétérinaire, vraiment très bien, il arrive en disant « Écoutez, votre chat souffre d'une maladie dont nous, les vétérinaires, n'avons pas encore trouvé le nom. »
Oui, c'est typiquement Monty Python, oui.
Donc voilà, pour un chat, virgule, déprimé, c'est ne plus avoir envie de vivre. C'est-à-dire de manger, de se toiletter, de jouer, d'explorer, de communiquer. Il faut cependant bien distinguer la vraie dépression du ralentissement général inhérent à la maladie, notamment si celle-ci s'accompagne de fièvre. Voilà, alors il y a tout un tas de choses sur la manière de s'exprimer. Par exemple, sur les griffes, le sujet des griffes, il y a des chats qui font beaucoup de dégâts avec des griffes. Et en fait, c'est une manière pour lui de marquer son territoire. Et il fait des lignes verticales, comme ça, idéalement. Et chaque fois qu'il voit ces lignes-là, ça le rassure. Il se sent chez lui. Les chats sont volontiers anxieux. Ils sont vraiment sujets à l'anxiété, qui se manifeste de tout un tas de manières. Et alors, ils vont notamment marquer leur territoire, si c'est des chats mâles. Donc, ils vont mettre de l'urine un peu partout. Parce que cette odeur pestilentielle les apaise, leur fait du bien. Ou ils vont faire des griffes aussi. Alors, il y en a qui peuvent miauler, puis il y en a qui vont perdre l'appétit, etc., etc. Et donc, toutes ces choses-là sont assez bien expliquées et très faciles à trouver du fait que c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, finalement, c'est un bouquin que je vous conseille si vous vous intéressez aux chats. Et c'est un livre, il fait combien de pages 220, 230 pages.
Oui, il est très complet. J'ai jeté un coup d'œil. Il y a des petites anecdotes aussi qui sont sur l'adoption de chats, des choses comme ça, des choses à ne faire, à ne pas faire. Enfin.
Oui, c'est vraiment une bonne chose si un chat décide de venir habiter chez vous, ou bien si vous décidez d'adopter un chat. Il y a des refuges avec des chats qui sont apportés là-bas, soit abandonnés, soit qui ont été trouvés. Et donc, c'est quand même chouette de permettre à ces animaux d'avoir une vie... Plus agréable et bon, on apprend beaucoup de choses dans ce livre, donc je vous le conseille. Et alors en illustration musicale, je vous propose de découvrir le morceau qui va suivre. Je vous laisse profiter de ce morceau tout à fait particulier. Alors c'est une soprano coloratour, s'appelle Nathalie Dessay. Donc c'est une dame qui est capable de chanter les arias de la Reine de la Nuit, pour vous donner une idée. Des performances vocales. Et ici, elle se livre à un exercice de musique classique, mais quand même tout à fait différent.
Yeah!
Oui, voilà, donc cette musique classique qui n'a pas l'air très classique, hein, qui parle de chats. Mais tu me disais, Isabelle, que tu as quelque chose sur les chats.
Oui, oui, oui. Ben, effectivement, le chat est un animal que moi j'aime beaucoup, que je connais bien. J'ai même fait mon mémoire de fin d'études sur le chat comme passeur de lumière entre le jour et la nuit, entre la culture et la nature. Il faut savoir que le chat, ben, oui, on le sait, hein, il est lié à des superstitions, à la sorcellerie. Oui. Et du coup, je repensais aussi à tous ces écrivains, tous ces poètes qui ont célébré le chat.
Colette.
Et notamment Baudelaire.
Oui, Baudelaire, je pense à Colette aussi.
Et à Colette, voilà, oui. il y en a plusieurs. Oh, oui. Et donc, notamment ce poème, Le chat. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumée pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Voilà.
C'est oui, chouette, c'est hein. Très beau, oui. Ça me fait penser. Quel était le titre du documentaire sur les chats? C'était Les chats qui ont conquis le monde? Ou comment ils ont conquis le monde?
Oui, c'est un. C'était... Oui, comment les chats ont conquis le monde? C'est oui. Un documentaire. Je ne sais plus si c'est sur Netflix, en fait.
Je ne sais plus non plus. Enfin. Mais c'est chouette parce qu'on voit tout leur tour, toutes leurs astuces pour nous séduire. Ce sont de grands séducteurs, je trouve, les chats. Vraiment. Et contrairement aux chiens, effectivement, ils ont peut-être un humain distributeur de croquettes, mais ils n'ont sûrement pas de maître, selon moi.
Oui. J'ai un ami qui, quand son chat miaulait, il lui disait « Oui, chat ». Le dieu des croquettes a entendu ton humble supplique. Et puis, il mettait des croquettes au chat, c'est assez... Il y a eu un reportage sur la BBC aussi. Non, c'est un article sur la BBC, sur le fait que les chats ont en moyenne 2,5 domiciles. En moyenne. Donc,
oui.
Ils habitent chez eux, et puis ils ont une résidence secondaire chez quelqu'un d'autre, où ils vont passer une partie du temps. Et c'est un article assez comique, avec une dame, un chat qui arrive chez elle, et elle considère après quelques semaines que c'est son chat... Et puis il disparaît parce que le propriétaire officiel du chat a déménagé. Et donc ça a été l'occasion de se rendre compte que, oui, il squattait plusieurs maisons.
Oui, parce que parfois les croquettes sont meilleures ailleurs, ou bon, on en a un peu marre de son environnement, on change. Ils sont de drôles de bêtes, mais je les aime beaucoup aussi, Isabelle.
Alors, oui, oui, et puis la ronronothérapie est avérée, et ses effets... sont très efficaces hein, sur le moral
oui, tout à fait.
Des personnes qui bénéficient.
D'ailleurs, en Angleterre, je pense, ils ont fait une expérience où ils permettaient aux animaux domestiques, chats et chiens, petits chiens, d'aller dans les chambres d'hôpital auprès de leur maître. Et on constatait que les gens qui pouvaient avoir leur chat dans la chambre d'hôpital guérissaient plus vite. Oui.
Mais oui, oui.
Oui, c'est un processus très mystérieux, le ronronnement.
Oui.
On parle de mouvements saccadés au niveau du larynx, et puis la veine cave, qui a une structure particulière, dans laquelle il y aurait des tremblements qui se transmettraient jusqu'aux bronches, et de là à la trachée, ça reste assez mystérieux. Alors, dans le livre, je voudrais encore parler d'une chose, parce que... Des auditeurs ou des auditrices ont des problèmes de chat. Il y a parfois des troubles du comportement. Alors déjà, dans le livre, on peut décoder un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire avec le chat. Il y a des choses à ne pas faire quand le chat commence à présenter des petits troubles du comportement. Donc il y a déjà beaucoup d'explications sur le fait, par exemple, que la litière doit être un endroit calme, qui est un endroit paisible pour le chat. Si c'est associé à une forme de stress qu'il est dérangé quand il y va ou des choses comme ça, ben il risque d'aller faire ses besoins ailleurs. Donc tout ça est déjà expliqué dans le livre. Et puis aussi, il y a une entrée de texte sur la thérapie comportementale. Donc il faut savoir qu'il existe maintenant des vétérinaires spécialisés qui peuvent assez souvent, grâce à des médicaments, résout des problèmes qui ne l'étaient pas dans le temps. Donc, quand on a un chat auquel on est vraiment attaché, il faut savoir qu'il y a éventuellement moyen de solutionner certains problèmes relationnels de la petite bête à poil. Les chats adorent jouer, hein. Ça c'est bien connu, c'est très important pour leur développement. Le jeu est important pour le développement du chat, mais aussi pour le développement du petit humain. Et nous allons parler de jeu. Alors dès l'instant que l'on dit jeu, on pense bien évidemment à Coralie, qui va maintenant nous présenter non pas un, mais deux jeux. Ne sommes-nous pas gâtés ?
Pour le deuxième jeu de ce prix Joker, j'ai décidé de vous présenter Draftosaurus. Il fait partie de la catégorie famille à partir de 8 ans. Je suppose que vous connaissez tous Jurassic Park, ce magnifique parc de dinosaures qui a très très mal tourné. Eh bien, dans ce jeu, vous allez devoir vous prendre pour George Hammond et construire votre propre parc de dinosaures. Pour ce faire, 6 espèces sont mises à votre disposition. Chaque espèce est représentée par des petits pions en bois colorés. Alors, vous avez tout d'abord le T-Rex, qui est bien connu, de couleur rouge. Vous avez le Parasaurolophus, qui est un petit peu moins connu pour son nom, mais dont on connaît bien la forme en vert. Il y a le Sochuminus en orange, le Stégosaure en bleu, le Brachiosaure en rose et le Triceratops en jaune. Dans ce jeu, vous possédez également un dé qui s'appelle un dé de contrainte. Alors sur ce dé, il y a plusieurs faces et en fonction de la face sur laquelle vous tombez, vous allez être obligé de placer votre dinosaure dans un enclos plutôt que dans un autre, ce qui peut éventuellement être un petit peu embêtant dans la partie. Alors, hop, votre plateau est un petit plateau en carton carré qui possède deux faces. La face été, qui est la plus facile, et la face hiver, qui est un petit peu plus compliquée une fois qu'on a bien pris le jeu en main. Alors, chaque enclos a sa propre spécificité, bien entendu. Donc, il y a l'enclos Le Roi de la Forêt, dans lequel vous ne pouvez mettre qu'un seul dinosaure et qui vous rapportera un certain nombre de points si vous remplissez les bonnes conditions. Le plus compliqué dans ce jeu, ça va être de compter les points. À partir de ce moment-là, je pense que le principe est assez simple. Donc, à chaque tour, le joueur le plus jeune lance le dé de contrainte pour voir quelle sera la contrainte pour le placement d'un premier dinosaure. Chaque joueur choisit son propre petit dinosaure et le dispose dans l'enclos de son choix, mais qui doit évidemment répondre au dé de contrainte. Donc par exemple, s'il faut placer un dinosaure dans l'enclos qui se trouve à côté des toilettes, eh bien ce sera obligatoirement l'enclos de l'île du solitaire, voilà, qui ne peut accueillir qu'un seul dinosaure. Petit jeu familial, on peut jouer de 2 jusqu'à 5 joueurs à partir de 8 ans et une partie durera environ 15 minutes. Voilà, ça c'était pour Draftosaurus qui, selon moi, est un adorable petit jeu absolument à tester en famille ou avec les petits-enfants parce que vraiment, il est super chouette, il est facile à prendre en main, il est coloré, tous les matériaux, ce sont des matériaux relativement durables, donc il s'abîmera pas très vite et il est vraiment super sympa. Et pour terminer la présentation du Joker de cette semaine, j'avais envie de vous présenter mon petit favori. Alors voilà, il s'appelle Cosmopolité. Le but du jeu, c'est très très simple. Vous êtes une équipe dans un restaurant et vous devez prendre des commandes, les mener à bien et les apporter aux bonnes tables. Quel est le problème, me direz-vous ? Eh bien, comme vous êtes un restaurant extrêmement cosmopolite et avec beaucoup de succès, vous allez devoir prendre des commandes dans toutes les langues possibles et imaginables. Alors, il y aura 6 langues au total. Les langues d'Afrique, les langues d'Amérique, les langues d'Asie, les langues d'Europe, les langues d'Océanie et des langues régionales de France. Pour mener à bien votre mission, vous allez devoir former une équipe. Il y aura un ou une serveur-serveuse qui devra d'abord écouter les commandes à partir de l'application. Suite à cette écoute, elle devra transmettre le plat que souhaite le client à l'équipe des cuisiniers, formée de plusieurs personnes, qui devront regarder dans les cartes ingrédients pour trouver les bons ingrédients pour faire le bon plat. Et une fois que le plat est préparé, le maître d'hôtel, la dernière personne de l'équipe, devra apporter le bon plat à la bonne table. Mais rien de plus parlant qu'un petit exemple, j'ai donc sélectionné pour vous, chers auditeurs, une petite carte et je vais essayer donc de décoder le plat que l'on me demande. Je vais donc devoir demander à mes cuisiniers de me préparer un choyu ramen. Ces derniers vont devoir chercher dans leur liste pour trouver un plat qui ressemble phonétiquement parlant, à peu de choses près, à choyu ramen, et vont devoir prendre les ingrédients pour ensuite préparer le plat. Alors, je ne vous cache pas que les ramen sont une soupe, et donc il faudra probablement trouver une soupe dans la partie des ingrédients. Comme vous le constatez, ce n'est pas un jeu très facile. C'est pour ça qu'on conseille aux joueurs d'avoir au moins 10 ans, parce qu'il faut être capable de comprendre la phonétique. On peut jouer de 4 jusqu'à 8 joueurs, donc c'est parfait pour les grandes soirées en famille quand on pourra de nouveau en refaire. Et une partie dure environ 6 minutes. Donc c'est assez rapide, mais c'est pas très évident à prendre en main. Alors je vous rappelle que si vous souhaitez emprunter un de ces jeux, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque de Jamoigne. Vous pouvez également les commander via le domicilivre et vous pouvez les réserver pour être sûr qu'ils ne vous passent pas sous le nez en appelant la bibliothèque au 061 25 98 25. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir écouté mes présentations de jeux et je vous laisse en compagnie d'Isabelle qui va continuer votre feuilleton sur le roman de Marie Fizaine.
Allez, dis-nous un peu ça Isabelle, s'il te plaît.
Mais oui, donc nous voilà dans la suite de notre feuilleton Marie qui nous parle de ça. Je vous ai laissé la dernière fois avec sa stupidité petite, puisqu'on lui disait grand-mère. Or, sa grand-mère était c'était, je crois, en tout climat qui annonçait et mentait avec force, se remuait dans leurs racines, se déhanchait sous un sous une gelée. L'hiver était en mal de devoir fuir. Les vents poussaient par-dessus terre. Déjà de mal, souple et le rat qui rend une tendresse à respirer. L'horrible chose, l'insensible à frapper. Notre mère, sans doute, est morte. Papa n'était pas ici puisqu'il était auprès d'elle. Plus tard, il faisait de manière une si froide angoisse, assise en avant sur les genoux, les défis, les ventes. La grande maison restait si elle paraissait derrière noirâtre. Nous sommes entrés là